Bonjour à chacun, à chacune, bienvenue. On arrive ce matin à la fin de notre première lettre de Jean, un Jean qu'on a parcouru depuis quelques mois. Mais avant de rentrer dans le texte, un petit sondage à main levée. Sentez-vous libre de lever la main, il n'y a vraiment aucun jugement. Je vais aussi la lever parce que je suis concerné par tout cela. Qui parmi nous a installé un antivirus sur son ordinateur ? Certainement. Il y en a, ils ne sont pas sûrs, mais il doit y en avoir. Qui a activé une double authentification sur des applications de son téléphone ? Ouais, une bonne majorité de mains. Alors, je ne pose pas la question parce que je pense qu'on a tous des assurances pour nos biens, pour notre santé, pour notre voyage. Autre question, qui suit de près son empreinte carbone ? Ah. Qui suit, qui essaye de faire attention à son empreinte carbone ? Qui est-ce qui surveille particulièrement son alimentation ? Il fait comme ci, comme ça. Qui est-ce qui vérifie ses comptes bancaires plusieurs fois par jour ? Ouais, plusieurs fois par jour. c'est pas grave, n'ayez pas honte, il n'y a pas de souci. Un petit sondage juste pour vous faire remarquer à quel point nous vivons dans une culture de la protection. Et ce petit sondage, ce court sondage en témoigne. Nous protégeons beaucoup de choses. En fait, nous avons besoin de sécurité. Si on est honnête, il y a quelque chose des fois un peu épuisant dans tout cela. C'est épuisant de devoir tout contrôler avec cette impression qui reste là que malgré tous nos efforts, le moindre grain de sable dans l'engrenage pourrait tout anéantir. Et d'un point de vue spirituel, aussi, nous doutons peut-être de notre capacité à persévérer dans la foi jusqu'au bout. La lutte avec un péché répétitif peut facilement nous faire douter de notre salut. La diversité de religions, le relativisme ambiant peut nous amener à se demander si notre décision de suivre Jésus était vraiment la bonne. Tout ceci révèle en fait combien on a besoin d'assurance, de vérité solide auxquelles nous raccrocher. Et en cela, ce passage de ce matin représente un profond encouragement et j'espère qu'il le sera pour chacun de vous. L'apôtre Jean, on se le rappelle, écrit à des chrétiens qui, eux aussi, étaient secoués par des faux enseignements qui commençaient sérieusement à mettre en doute leur foi. Et Jean veut leur donner trois assurances pour persévérer dans la foi en Jésus. Vous allez voir dans ce très court passage qui clôture cette lettre, il va marteler trois fois la même expression. Nous savons. Comme si Jean tenait à poser trois gros piliers pour que le chrétien ne soit plus jamais ébranlé. Ouvrons nos Bibles ensemble et découvrons la première assurance, l'assurance d'être gardé par Christ. Je vais lire d'abord les versets 16 à 18. L'ensemble du passage fait de 16 à 21. 1 Jean, chapitre 5, versets 16 à 18. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. mais celui qui est engendré de Dieu, le Fils de Dieu, le garde et le malin ne le touche pas. » Je m'arrête pour l'instant dans la lecture de la parole de Dieu. Quand on lit ces versets pour la première fois, on peut peut-être se sentir un peu déstabilisé. Et c'est vrai, ce passage est reconnu pour être parmi les passages difficiles à interpréter dans la parole de Dieu. La difficulté concerne essentiellement ce fameux péché qui mène à la mort. Quel est-il ? Alors, je n'ai pas le temps de développer toutes les pistes qui ont été émises, mais la piste la plus solide en tenant compte le contexte de la lettre, mais aussi le contexte du Nouveau Testament et plus largement de la Bible dans son entièreté, serait celle-ci. Jean, l'apôtre Jean, a certainement en tête les faux enseignants qui ont quitté la communauté chrétienne en niant la pleine humanité et divinité de Christ. Et où ? En fait, il s'agissait d'un refus conscient, obstiné et définitif de la vérité de l'Évangile. Et ces personnes-là, quand elles ont rejeté délibérément Christ, cette source de vie, eh bien, elles choisissent, en définitive, la mort éternelle. En fait, on pourrait dire que ces gens n'ont jamais été de véritables chrétiens. Ils n'ont jamais été régénérés, ils n'ont jamais été sauvés. Pour nous aujourd'hui, il nous faut reconnaître que c'est bien difficile de déterminer avec certitude si quelqu'un a commis ce péché-là. Seul Dieu le sait. En ce sens-là, il semble sage de continuer à prier pour les personnes de notre entourage, celles et ceux qui ne suivent pas encore Jésus, afin que Dieu leur donne la vie. Mais prions aussi pour nos frères et sœurs en Christ qui manifestent temporairement une manière de vivre non conforme à la volonté de Dieu. Prions pour eux, prions pour elles. Prions pour qu'ils reconnaissent leur péché, qu'ils le confessent et retrouvent ainsi la communion avec leur Père céleste. Et puis, au verset 18, Jean pose le premier pilier. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas. Alors, on a déjà évoqué cette vérité dans des passages précédents de cette lettre de Jean. Et pour rappel, Jean ne dit pas que le véritable croyant ne pèche jamais, mais qu'il ne peut plus vivre en harmonie avec le péché. La nouvelle naissance, la transformation de son cœur a réorienté les désirs de son cœur de manière globale. C'est désormais l'opposition au péché qui demeure le principe permanent et le principe dominant dans sa vie. Mais surtout, et c'est là l'essentiel, Jean précise, le malin ne le touche pas. Le malin, le diable, ne le touche pas. Il y a un sport national en Turquie qui s'appelle la lutte à l'huile. Les deux lutteurs s'enduisent le corps d'huile d'olive. Dommage, ce serait bien de l'huile de tournesol. Ce qui rend quasi impossible de trouver une prise sur la peau de l'autre. En fait, le seul moyen d'attraper l'autre, c'est de l'attraper par son pantalon, qui est aussi enduit d'huile, bien sûr, pour rendre les choses un peu plus compliquées. Et en fait, c'est exactement l'idée retranscrite ici, dans la version originale. Quand il est dit « le malin ne le touche pas », ça veut dire que le diable ne peut pas agripper le chrétien dans le but de lui faire du mal. Il ne peut plus se saisir de lui. Il ne trouve pas de prise. on a le corps huileux. Le diable peut rôder, il peut rugir, il peut essayer de nous intimider, mais il ne peut pas poser sa main sur nous et nous arracher de la main du Père. Pourquoi ? Parce que Christ, le Fils de Dieu, nous garde. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle cette parole de Jésus quand il parlait de ses disciples en tant que brebis, et il disait « Personne ne les ravira de ma main » dans Jean chapitre 10, verset 28. Ou encore quand il prie pour ses disciples en Jean 17, il parle à son Père et il dit « Je les ai gardés ». Notre sécurité spirituelle ne repose pas sur notre capacité à tenir, mais sur la puissance de Christ qui nous tient et qui nous gardera. Après ce premier pilier de notre sécurité spirituelle, Jean pose un second pilier, l'assurance d'appartenir à Dieu. Peut-être le pilier qui ressort comme le plus radical. Je lis juste le verset 19. Deuxième, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. En une seule phrase, Jean trace une frontière nette. Deux mondes, deux appartenances possibles. Aucune zone grise. Là encore, le mot original utilisé pour « au pouvoir » donne l'image de quelqu'un qui est allongé dans une passivité totale. Le monde, en tant que système qui s'oppose à Dieu, ne cherche pas activement à se libérer des bras de Satan, mais il reste là tranquille, endormi, inconscient. Le monde entier se trouve sous la mainmise du diable. C'est un constat lucide pour nous rappeler simplement d'où nous venons et où nous sommes maintenant. Avant de connaître Christ, nous étions dans ce monde-là. Maintenant, dit Jean, nous sommes de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est justement cette première partie de l'affirmation. Nous sommes de Dieu. Pas nous essayons d'être à Dieu. Pas non plus nous espérons être à Dieu si nous faisons suffisamment d'efforts. Non, nous sommes de Dieu. C'est une identité que l'on reçoit. Ce n'est pas une identité méritée. C'est l'assurance de notre appartenance à Christ. Nous n'avons pas gagné notre place dans la famille de Dieu. Nous l'avons reçue par grâce. Un enfant adopté ne mérite pas moins d'être dans sa famille parce qu'il n'est pas né biologiquement dans cette maison. À partir du moment où l'adoption est prononcée, il est fils ou fille, avec tous les droits que cela comporte. Il appartient à cette famille. Personne ne peut le lui retirer. Et c'est exactement ce que Jean affirme ici. Dieu nous a adoptés. Nous lui appartenons. Ce n'est pas quelque chose de conditionnel à nos performances. Et c'est justement ici que s'exprime parfois le doute pour nous, parce que nous ne nous sentons ni complètement noirs, en tout cas, pas complètement blanc. Nous nous sentons plutôt gris et, si on est honnête, peut-être gris foncé. Nous sommes loin d'être à la hauteur des exigences de Dieu. Force est de constater aussi que notre moralité est parfois moins élevée que peut-être certaines personnes qui ne sont pas encore croyantes. Au sein de la famille de Dieu, il nous arrive parfois, souvent, de nous faire du tort, de nous blesser les uns les autres. Et les jours où nous faisons tout mal, nous nous sentons peut-être moins chrétiens que les jours où nous faisons de bonnes choses. Nous fonctionnons, notre cœur fonctionne naturellement en termes de performance. Faire partie de la famille de Dieu restera toujours un cadeau à recevoir. Jamais un mérite, jamais un privilège à gagner. Nous ne sommes pas meilleurs ni supérieurs à ceux qui sont encore dans le monde, sous l'emprise du diable. Nous avons simplement reçu ce cadeau d'ouvrir les yeux sur notre état de perdition et notre besoin profond d'être réconciliés avec notre Créateur grâce à Christ. Un peu plus tôt, dans ce chapitre, traité la semaine dernière, l'apôtre Jean a affirmé « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » C'était au verset 1 et au verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » L'assurance de notre appartenance à Christ n'est pas basée sur une émotion, de ce que nous ressentons un jour ou pas, mais sur celui qui est l'objet de notre confiance, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc après l'assurance d'être gardé par Christ et l'assurance d'appartenir à Dieu, pour celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, Jean pose le troisième et dernier pilier, l'assurance de connaître le véritable. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je m'arrête à nouveau ici. Dans notre société actuelle, on nous répète de bien des manières différentes que la vérité objective n'existe pas. C'est bien connu dans le milieu chrétien. Nous vivons désormais dans l'ère de la post-vérité. On entend souvent des choses comme « à chacun sa vérité ». L'important, c'est ce que tu ressens. Si c'est vrai pour toi, c'est très bien. En plus, avec le développement massif de l'intelligence artificielle, des deepfakes, donc comprenez par là des fausses informations, circulent très régulièrement, que ce soit par l'audio, que ce soit par l'image. Aujourd'hui, juste pour que vous sachiez, si vous captez 15 secondes du discours de quelqu'un, avec une intelligence artificielle, vous pouvez donner sa voix sur le message que vous avez envie de faire passer, et l'intelligence artificielle va reprendre comme si c'était la personne. Difficile de distinguer le vrai du faux, et cela génère du doute. L'apôtre Jean pose donc ici une affirmation historique et spirituelle. Il affirme « Le Fils de Dieu est venu ». La foi chrétienne n'est pas une philosophie abstraite qui est née un jour d'une lubie de quelqu'un. Ce n'est pas un ensemble de règles morales. Elle est fondée sur un événement historique. Dieu est entré dans le temps et dans l'espace. Jésus-Christ a marché sur notre terre. Il a mangé. Il a guéri des malades. Il est mort sur une croix et il est ressuscité des morts. C'est du concret. Et Jean fait partie des témoins qui ont vu Jésus et qui l'ont côtoyé de très près pendant plusieurs années de sa vie sur cette terre. Et il ajoute, il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Ce mot intelligence correspond à une capacité spirituelle, un discernement que le Saint-Esprit nous donne. C'est comme un voile qui tombe soudainement pour nous permettre de reconnaître ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui est véridique. Grâce à Christ, nous pouvons connaître le véritable, c'est-à-dire le Dieu réel, le seul vrai Dieu, par opposition à toutes les conceptions humaines erronées. Mais il y a plus encore. Jean affirme, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. On a ici, et on pourrait en parler des heures, la magnifique doctrine de notre union avec Christ que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Par la foi, nous sommes unis à Christ. Nous sommes en Christ. Christ vit en nous. Nous avons cette connaissance de Dieu, nous le connaissons. Et la connaissance est toujours quelque chose de très profond, bibliquement. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'une communion vivante, d'une relation personnelle et intime avec le véritable Dieu en Jésus-Christ. Et comme pour finir d'ancrer ce pilier, cette assurance, Jean précise, c'est lui, Jésus, le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean attribue ici de manière magistrale et de manière directe à Christ le titre de Dieu véritable. Il est la source et la définition même de ce que sera et de ce qu'est ce que sera la vie éternelle. C'est exactement ce que Jésus disait lui-même dans Jean chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà notre troisième pilier, l'assurance de connaître le véritable. Si ce matin vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous avez sans aucun doute pris la meilleure décision. Vous connaissez, vous êtes en relation avec le véritable Dieu, l'unique, et ceci pour l'éternité. Après avoir posé ces trois piliers, les tout derniers mots de cette première lettre tombe un petit peu comme une évidence, j'ai envie de dire. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Jean conclut, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Dans le contexte de tout ce que Jean vient d'affirmer ici et dans l'ensemble de sa lettre, une idole, c'est toute fausse conception de Jésus-Christ. C'est tout ce qui cherche à déformer ou à remplacer le Dieu véritable dans nos cœurs. Si nous oublions que Jésus est celui qui nous garde, nous prenons le risque de nous tourner vers l'idole du contrôle, du matérialisme, de la sécurité financière. Nous pensons que notre compte en banque nous gardera mieux que le Christ lui-même. Si nous oublions qui nous sommes en Dieu, nous prenons le risque de nous tourner vers l'idole de l'approbation des hommes, du statut social ou du succès professionnel. Nous cherchons alors dans le regard des autres la validation que seul Dieu peut nous donner. Si nous oublions le véritable tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, nous prenons le risque de nous fabriquer un Jésus sur mesure, un Jésus à notre image, un Jésus personnalisé qui va être toujours d'accord avec nos choix, qui ne nous dérange jamais dans notre confort, un Jésus réduit à un genre de coach de vie ou à une idéologie, quelle qu'elle soit. Mais ce Jésus-là n'est pas le véritable. C'est une contrefaçon. Et cette contrefaçon produira tôt ou tard du doute et de l'insécurité dans nos vies. Alors que ces trois assurances nous encouragent à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes gardés, non par nos efforts, mais par Christ lui-même. Nous appartenons à Dieu et plus au monde, non parce que nous l'avons mérité, mais parce que nous sommes nés de Dieu par grâce. Et nous connaissons le véritable, parce que le Christ est venu et nous a ouvert les yeux sur le seul vrai Dieu. C'est juste quelques minutes pour encore réfléchir à ces vérités, qu'elles viennent vous encourager, vous renouveler, vous réconforter si ce matin vous étiez encore peut-être assailli par le doute, et puis peut-être réfléchir si vous n'êtes pas encore au clair sur l'identité de Christ et cet appel qui vous tend encore ce matin à le suivre. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Merci pour cet apôtre qui t'a côtoyé et qui écrivait il y a plusieurs milliers d'années de cela à ces premiers chrétiens pour les encourager dans leur foi en Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, pour les fortifier, pour les assurer du choix de cette décision qu'ils avaient prise de placer leur foi en toi, qui est en fait tout simplement un cadeau qu'ils avaient reçu de ta part, qui n'était pas mérité, pour les assurer, Seigneur, dans ce chemin qu'ils suivaient, alors que le doute faisait rage par des faux enseignements qui tournaient dans les églises à propos de l'identité de Christ, sur la vie parfois très immorale que menaient ces enseignants par rapport à ce qu'ils enseignaient aussi, et qui semait de l'incertitude. Seigneur, je te prie que tu nous gardes près de toi, que tu nous gardes, Seigneur, toujours près de ta parole, qui est cette vérité, et que par ton esprit, Seigneur, tu gardes nos yeux éclairés sur qui tu es, à l'écoute pour discerner aussi tous les faux enseignements qui circulent, et particulièrement sur Internet aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut entendre. Il y a tellement de faux enseignements qui tournent sur différents sites. Seigneur, donne-nous de la sagesse, donne-nous du discernement et donne-nous surtout de rester ancrés dans ta parole et de se laisser, Seigneur, éclairer aussi par toi. Merci pour tous les outils aussi qui existent pour se former, pour mieux te connaître, pour étudier ta parole de manière aussi sérieuse. Et Seigneur, je te prie que s'il y a des personnes qui ont soif de cela, Seigneur, eh bien que tu puisses les appeler aussi à se mettre en route et à suivre peut-être une formation ou l'autre. Seigneur, on va encore te louer ce matin et te célébrer pour cette assurance que tu nous donnes et te louer maintenant dans ce temps qui va suivre. Amen.